Alors saint Paul nous dit, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Alors, saint Paul nous parle de la résurrection. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Et du coup, comme disait un philosophe, Fabrice Adjadj, j'espère que je vais choquer personne, mais si le Christ est vraiment ressuscité, eh bien, nous sommes faits pour le martyre. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes faits pour le suicide. Il disait, la vie, il y a cette alternance entre le martyr ou le suicide. C'est-à-dire, soit la vie n'a pas de sens, puisque le Christ n'est pas ressuscité, et donc, à quoi bon vivre si je vais pas bien et que la vie ne me donne pas les joies que j'espère, autant terminer là, et rapidement. Et si le Christ est ressuscité, alors je suis inconscient de ne pas tout donner pour lui. Et le martyr était évidemment la réponse. Alors le martyr, c'est le témoignage. Soit vous irez peut-être au martyr de sang, mais il y a le martyr du quotidien, le martyr d'oser poser une question dans la classe qui peut déranger dans une société laïque, etc., etc. Il y a plein de formes de martyr. Bon. Alors, ce témoignage, ce martyr pour lequel nous sommes tous invités à vivre, qui est l'état du chrétien, l'évangile le monnaie autrement, mais ça veut dire la même chose. Il dit, vous êtes appelés à porter du fruit. Bon. Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Donc la question pour nous, c'est, est-ce que j'ai compris que le disciple, c'est pas celui qui croit? C'est très bien de croire, d'avoir la foi, c'est très bien, mais le disciple, c'est celui qui fait des disciples, qui porte du fruit. Et c'est la finale de l'évangile de Matthieu, allez de toutes les nations, faites des disciples, en leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit. Et du coup, aimer l'autre, faire un disciple, c'est peut-être, en fait, lui enlever la paille dans son œil. Bon, c'est ça finalement. Je t'enlève ta paille, tu vois pas bien, mais en fait, tu es aimé de Dieu d'une manière infinie, et je te le dis, tu étais aveugle sur cette connaissance, et je te le dis maintenant. Et du coup, la communion des saints, qui est notre appel, hein, nous sommes dans l'Église, c'est quoi cette communion des saints? C'est que l'autre doit, peut avoir une influence sur moi, et moi, je dois avoir une influence sur l'autre. La communion des saints, ça marche dans les deux sens, et je reçois des autres, et je suis un trésor pour l'autre. C'est toujours important de se demander, est-ce que j'ai l'impression d'être un cadeau pour l'autre? Vous avez l'impression d'être un cadeau pour l'autre? Si vous dites non, c'est mal parti. Vous imaginez, moi, écoutez, je suis pas du tout un cadeau pour la paroisse. Ayant le curé, il s'aime pas beaucoup, hein, dis donc, on sent qu'il déprime, hein. Il est venu nous dire que il a rien à apporter à la paroisse. Ben, non, on peut avoir des coups de mou, des coups de blues. Donc, mais à ce moment-là, il faut se dire, mince! J'ai pas l'impression du tout d'être un cadeau pour l'autre. J'ai pas l'impression d'avoir des bons fruits à apporter aux autres. Eh bien, c'est que je suis peut-être dans une période basse. Et il faut que les autres me donnent. Que moi aussi, je sois celui à qui on enlève la paille, voire la poutre. Enfin, peu importe, c'est qui cache. Pour que je retrouve la vue, le ciel, et que je permette à d'autres de regarder vers le haut. Pas d'être courbé comme la femme dans l'évangile. Donc il y a deux séries de questions. C'est la première série de questions, c'est qui va me sortir de cet aveuglement? Est-ce que je vois des gens autour de moi qui peuvent me dire mes angles morts? Vous voyez? Qui est-ce qui m'enseigne? Quelles sont les paroles qui conduisent ma vie? Qui me guide? Quels sont les moyens que j'ai pour aiguiser ma conscience? Vous voyez, enfin c'est, est-ce que je suis dans un questionnement par rapport à mes aveuglements possibles? Oui ou non, quels sont les moyens que je prends? Bon. Et puis la deuxième, c'est, après sortir de mon angle mort, c'est vers qui j'ai de l'influence? qui écoute mes paroles? Sur qui ai-je de l'autorité? Vous voyez, est-ce que je pense à des personnes? Bah, pour moi, c'est facile, hein, parce que moi, c'est... Alors, qui écoute mes paroles? Je ne sais pas très bien. Là, vous êtes obligés. C'est la pénitence. Bon, qui écoute mes paroles au sens biblique du terme? Qui les met en pratique? Vous voyez? Est-ce que vous dites, tiens, en fait, moi, je sens que le Seigneur me conduit vers telle ou telle personne, un peu comme le bon samaritain, qui dit, ben voilà, sur la route, j'ai vu tel blessé, oui, qu'on arrive à repérer, qu'on soit pas dans le flou. Oui, le Seigneur nous appelle à aimer tout le monde. Ça veut dire personne, en fait. Quelles sont les personnes que le Seigneur te donne? Bon. Donc ça, c'est la question, c'est comment je reçois et vers qui je donne. Donc ça veut dire peut-être deux choses, et je vais terminer par ça. La première chose, c'est que la première personne à s'occuper, c'est nous-mêmes. Je veux dire, là, quand vous avez un saint, une sainte, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, vous avez des milliers de gens qui se convertissent. Donc le devoir du chrétien, c'est pas d'abord de s'occuper des autres, mais c'est d'abord de s'occuper de soi, de prendre soin de soi-même, voilà. Et de se dire, tiens, est-ce que je suis vraiment un cadeau pour les autres? Est-ce que je fais un vrai travail sur moi qui fait que j'ai de l'influence malgré moi? Et c'est ce que dit l'Évangile, il dit, chaque arbre se reconnaît à son fruit, ou la première lecture, en fait. En fait, la personne, elle parle, elle a beau essayer de surveiller son cœur, tout ça, en fait, non, les paroles disent l'état de quelqu'un. L'idée dans cette première lecture, c'est de dire que, en fait, on peut pas mettre de filtre, on peut pas avoir de contrôle sur nous-mêmes. C'est la personne qui même d'ailleurs dans ses paroles, vous engueule un peu avec une parole vulgaire. Et tout de suite, la personne vous dit, ah non, je voulais pas dire ça, je le pensais pas. Ben si, en fait, tu le pensais. Non, ça a habité ton cœur. Sauf que là, tu n'as pas mis de filtre, mais ça a habité ton cœur. Donc, c'est ça l'idée des paroles aujourd'hui, dans la première lecture, l'Évangile, c'est de dire que notre cœur, en fait, a un rayonnement qui nous dépasse. Et donc, je dois plus travailler sur mon cœur que travailler sur comment être présentable aux autres, quelles sont les séances de coaching que je dois faire pour être... un super communicant, un super travail sur ton cœur. Si tu as un cœur doux et humble, comme Jésus, eh bien tu vas porter un fruit. Vous voyez, la Vierge Marie, je prends des exemples extrêmes, la Vierge Marie, c'est l'Immaculée Conception, elle est pleine de grâce. Elle va voir sa cousine Élisabeth. Qu'est-ce que dit Élisabeth? Dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse. Bienheureuse celle qui a cru. C'est-à-dire qu'en fait, ta parole, tu m'as simplement salué, il y a une effusion de l'Esprit-Saint. Imaginez, moi, si quand j'ouvre la parole, les gens commençaient à pleurer. Comme le curé d'Ars. Bon, moi, les gens, ils pleurent pas, ils rigolent, ils disent c'est sympa, bon, il est sympa ce curé. Bon, on se convertit pas, mais c'est détendu. Jean-Baptiste, c'est la même chose. Oui, Jean-Baptiste va désigner Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Et à ce moment-là, les disciples de Jean-Baptiste vont suivre Jésus. Puissance de la parole. Mais puissance de la personne, parce que Jean-Baptiste, il va vivre 30 ans au désert. Donc c'est quelqu'un qui est, c'est le moine par excellence, qui fait que quand il parle, un peu comme Jésus dans la passion, dans sa passion, quand Jésus parle, les gens tombent par terre. Quand il dit « c'est moi », il tombe par terre. Donc, ça c'est la première chose, c'est je vais guider donc les autres en travaillant sur moi-même, au sens en cherchant ce qui te plaît Seigneur, la volonté de Dieu. Et puis, je me disais, il faut que je vous dise quelques mots sur l'oraison, parce que je pense que En fait, avoir un cœur doux et humble, il faut passer de longues heures devant Jésus. Nous sommes transformés par ce que nous voyons, par ce que nous aimons. Plus nous aimons Dieu, plus nous devenons Dieu. Plus nous contemplons la parole, plus nous scrutons les Écritures, plus nous pensons comme Dieu pense. Donc il y a un véritable enjeu qui est, vous voyez, je prenais l'exemple de la petite Thérèse, le véritable enjeu c'est l'union à Dieu qui passe entre autres par la prière, pas seulement, mais en partie par la prière. Donc est-ce que j'ai un vrai temps d'oraison, c'est-à-dire de prière? C'est pas simplement je prie dans le métro le matin avec l'application, je sais pas quoi, je vais pas donner de nom, parce qu'on me dira, vous voyez, c'est bien, dans le métro c'est pas mal, mais Dieu est un époux jaloux. Donc je voudrais avoir 15 minutes avec toi et pas que tu sois en même temps dans le métro. T'as 15 minutes que pour moi. T'imagines si tu vois ta fiancée, ton épouse, je sais pas quoi, que dans le métro. Écoute, dans le métro, on a le temps de se parler. Mais oui, mais je voudrais un petit restaurant tête à tête avec des petites bougies. Tu vois, un truc sympa. Comme ça qu'il veut le Seigneur. Pour ça qu'on met des bougies, on met de l'encens, vous avez mis le parfum. Hein, c'est chèvrefeuille ce soir. C'est pour ça que c'est un peu citronné. Bon, vous repérez bien. Ceux qui sont devant sentent mieux l'encens. Vous avez des meilleures chaises devant parce que les dossiers sont plus arrondis. Et vous sentez davantage l'encens. C'est de l'encens qui sent bon, nous, hein. C'est pas un truc qui... Bon, ensuite, par rapport à la vie d'oraison, vérifier que nos activités, c'est pas tout à fait l'oraison, mais ça s'approche, et nos activités ne nous empêchent pas d'être avec Dieu. Et la personne, ou le curé, ou la personne qui dirait « Ah oui, j'ai du bien à faire, faut que j'aille voir les pauvres et tout ça », qui n'a plus le temps de prier, c'est pas bon. Est-ce que mon activité, vous voyez, elle me permet d'être plus proche de Dieu? Est-ce qu'elle me construit? Est-ce qu'elle me grandit? Alors, l'activité, en particulier l'activité, notre bénévolat, etc. Bon. Puis la dernière chose, je vois la qualité de la vie d'oraison au fait que je suis gêné si je ne peux pas prier. Et vous êtes en voyage, bon. Puis vous n'avez pas pu, je sais pas quoi, bref, vous n'avez pas pu prier comme d'habitude. Vous êtes dans une mission intense, vous devez faire des tas de trucs et bon. Et ça vous gêne de ne pas être avec Jésus, dans un cœur à cœur gratuit. Si ça ne vous gêne pas, c'est que peut-être votre âme est un peu morte. Si ça vous gêne, c'est que vous êtes amoureux et c'est bon. Quand le temps reviendra, vous pourrez à nouveau vous mettre devant Jésus gratuitement, dans ce cœur à cœur, qui va vous donner la joie dans le cœur, et que vous allez communiquer malgré vous. Bon, ça vous enthousiasme d'être, comme dit saint Paul, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Ça vous enthousiasme? Enthousiasme. Vous êtes enthousiasmé par le fait que nous travaillons pour la plus grande nouvelle, la plus grande œuvre. C'est de communiquer la vie éternelle à des gens qui ne la connaissent pas. Vous imaginez un job plus important que ça sur la terre? Si vous me dites qu'il y a un job plus important, moi j'arrête, hein, je ferme l'église et je change de travail. C'est la plus grande mission, c'est la mission de tous les baptisés. Allez de toutes les nations, faites des disciples en leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit. Mais ça suppose vraiment cette attitude de dire « Seigneur, montre-moi quand je ne suis pas disciple, ma poutre, et puis permets-moi à ce moment-là, je t'en supplie, d'avoir de la compassion pour les hommes, les femmes, pour que j'aille vers eux et de leur dire « Écoute, t'as une petite paille là ? » Il me semble, je me permets... J'ose une parole, eh bien, le Seigneur peut te l'enlever, scrute les Écritures et sois joyeux.